Vous écoutez RTL.
RTL, il est pratiquement 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
L'acteur Mel Gibson veut désormais consacrer son temps à la réalisation. C'est une des nombreuses confidences faites à Stéphane Boutsock. On l'écoute dans un instant et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des places pour aller découvrir son nouveau film « Tu ne tueras point ». Après 2 mois de rentrée littéraire, on fait les comptes et l'auteur Gaël Faye s'impose comme la révélation de l'automne. Son roman Petit Pays fait notamment partie de l'ultime sélection du prix Goncourt qui sera attribué jeudi et il s'est confié à Bernard Lehu. La star de Violetta, Martina Stoessel, qu'il faut désormais appeler Tini, reviendra en France au printemps prochain pour une série de concerts. Elle va nous l'annoncer, Laurent Marsic a pu la joindre. Et puis à la télévision ce soir, le retour de Christophe Ondelatte au magazine de faits divers. Ça se passe sur France 3 et sur M6, fin de saison pour L'amour est dans le pré. Ce sont les choix d'Isabelle Morelli-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est donc une exclusivité radio que nous vous proposons pour commencer une rencontre avec une légende d'Hollywood. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Vous étiez il y a quelques jours à Los Angeles en compagnie de Mel Gibson.
Pour son 5e film de réalisateur qui s'appelle « Tu ne tueras point », ça sort le 9 novembre au cinéma avec RTL. Film à la fois épique et intimiste qui raconte une incroyable histoire vraie, celle de Desmond Doss, brancardier de l'armée américaine durant la guerre du Pacifique. Un garçon qui a sauvé 75 de ses camarades lors de la terrible bataille d'Okinawa en restant fidèle à son engagement religieux et à sa volonté de ne jamais toucher une arme. Cas unique auquel Mel Gibson donne une ampleur impressionnante lors des scènes de bataille. Très franchement, j'ai pas vu mieux depuis Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, est quand même une sacrée référence, tout en conservant une dimension personnelle et humaine à un Desmond Doss totalement habité par sa foi.
Alors la religion, on le sait Stéphane, hein, c'est un des aspects de la personnalité tourmentée de Mel Gibson.
Oui, après des années difficiles marquées par une dépression, un retrait des plateaux et puis l'alcoolisme, il en avait longuement parlé, la star m'est peut-être apparue plutôt apaisée, presque en rédemption. Écoutez.
Je ne suis pas très pratiquant. J'aimerais ressentir vraiment la foi. C'est pourquoi je suis ému quand je croise des histoires comme celle de Desmond, pour qui la foi est essentielle. Je voudrais que cela m'inspire et certaines pages de son livre m'aident en ce sens. D'ailleurs, il n'y est pas question de religion, mais bien de la foi, de conviction, de droiture et de cet amour pur qui, pour moi, est dans le cœur de Dieu. Je poursuis mon chemin en homme imparfait et croyez-moi, je tente de régler ces questions en privé.
Alors en privé, mais aussi publiquement, à travers ses rôles au cinéma, dans lesquels il joue souvent les martyrs, mais aussi dans ses mises en scène, de Braveheart à Apocalypto, en passant évidemment par La Passion du Christ, Gibson multiplie les clins d'œil à la religion, à tel point que dans Tu ne tueras point, il filme son héros blessé, comme suspendu miraculeusement dans l'air. Mais quand je lui ai demandé s'il avait sciemment fait le parallèle avec Jésus...
Non, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais il y a en effet des parallèles. Le Christ était le héros de Desmond Doss et il a placé sa vie entière sous le signe du plus bel acte d'amour possible. Ne jamais laisser un homme ou un ami souffrir sans intervenir. Et c'est exactement ce que Desmond a fait, ce qu'il a pratiqué. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit d'une histoire d'amour, pas d'un film de guerre.
Et quitte à parler de cette guerre, vous nous disiez Stéphane que les scènes de combat du film étaient extrêmement réalistes.
Ah oui, intense, brutal, à la fois barbare et très graphique. C'est du cinéma réaliste, plein de bruit et de fureur, celle des hommes bien sûr, mais aussi celle des armes. Mel Gibson.
Avant tout, je voulais que ce soit réaliste. Cette bataille a été la plus meurtrière de la guerre du Pacifique et les Japonais eux-mêmes en parlent comme d'une pluie d'acier, de balles et d'explosions au napalm. Et il fallait que ça ait l'air vrai. Il me semble que cela met en valeur ce qu'un homme de foi peut ressentir quand il est plongé dans l'enfer sur Terre. Les hommes y étaient réduits à l'état d'animaux et au milieu de ce maelstrom, cet homme parvient à préserver sa spiritualité et à accomplir quelque chose de grand. C'est au-delà de la religion, de la guerre, au-delà de tout. Il plonge dans tout cela, donne de l'amour au cœur de l'enfer. Toute la beauté de cette histoire est là, c'est la définition même de l'héroïsme.
Eh ben tiens, justement, Gibson a incarné quantité de héros au cinéma de Mad Max à l'arme fatale. Quelle est, pour lui, la définition de ce mot ?
Les vrais super-héros ne portent pas de masques et de costumes moulants. Ce que Desmond a démontré et que je trouve très inspirant, c'est sa faculté à transcender la guerre. Nous en avons toujours connu, il y en aura encore, mais lui a réussi à faire avec, même en plein enfer, en nous montrant une autre manière d'aimer son prochain. C'est un message essentiel, surtout pour notre monde qui tourne au désastre. Bien sûr que tout ça s'est déjà produit et se reproduira, car nous ne retenons aucune leçon. C'est comme si l'histoire se vomissait elle-même. Ma seule ambition est de jeter un petit coup d'œil à tout ça, à la brutalité vicieuse de la chose. Je voudrais que le public soit touché et qu'il en retienne quelque chose de bon.
Mel Gibson sur RTL ce matin à l'occasion de la sortie le 9 novembre de son film Tu ne tueras point. Suite de cette rencontre en exclusivité radio dans un instant, puisque frère Stéphane Woodstock a confessé Mel Gibson.
Absolument.
Dans la paix du Christ.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Suite de notre rencontre avec Mel Gibson à l'occasion de la sortie en salle le 9 novembre de son cinquième film en tant que réalisateur, Tu ne tueras point. Stéphane Woodstock, on peut dire qu'il y a deux choses qui passionnent Mel Gibson, cinéaste, la foi et le chaos, c'est ça?
Oui, toute sa filmographie tourne autour de la confrontation de ces deux concepts apparemment fort éloignés. Dans les films du cinéaste Gibson, l'homme subit des événements terribles mais tente jamais de ne perdre sa ferveur envers ses idées.
Dans les situations extrêmes, l'esprit humain est éprouvé. Et voilà mon point commun. Le conflit. Ça fait toujours de bonnes histoires. Le conflit personnel du personnage, le conflit extérieur, la manière dont les deux se confrontent avec difficulté. C'est là qu'on voit ce dont un homme ordinaire est capable au plus profond de son âme. Ce sont des thèmes formidables, des histoires héroïques. Homer ou Virgile les ont évoqués. À travers les âges, on trouve beaucoup de récits fantastiques de ce genre.
Alors on se souvient par exemple des extraordinaires scènes de bataille de Braveheart avec Sophie Marceau en 1995. Cette saga tragique et barbare, celle de William Wallace, la figure de l'indépendance de l'Écosse, on était à la fin du XIIIe siècle. Pour Mel Gibson, le parallèle avec Tu ne tueras point s'arrête là et pour pas mal de raisons.
Les conflits médiévaux étaient très différents. On se tapait dessus avec des objets improbables. Là, on parle de bombes, de balles, c'est autre chose. Alors croyez-moi, le degré de difficulté est beaucoup plus élevé. Et j'ai eu un quart du budget en moins par rapport à Braveheart, et moitié moins de temps. Et c'était il y a 20 ans. La manière de faire des films n'a plus rien à voir, et celui-ci est indépendant, d'accord ? Je trouve qu'il a de la gueule vu ce que nous avions pour le tourner. J'aurais eu besoin de 100 millions, je n'en ai eu que 40. Le plus beau compliment que l'on m'ait fait après une projection, c'est « Waouh, c'est comme ça qu'on faisait des films avant ?» Et j'ai répondu « Vous voulez dire dans les années 30 ou 40 ?» Et on m'a dit « Non, dans les années 80. »
C'est drôle. Les années 80 durant lesquelles Mel Gibson est devenu une superstar en tant qu'acteur, c'est une époque révolue.
Bah oui, et puis apparemment c'est volontaire. L'acteur australien ne court plus après les rôles, il s'est lassé du système, il redoute la presse, hein, qu'il n'a pas épargné lors de ses frasques personnelles. Il me l'a dit, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est réaliser des films.
Oui, je crois que ça me plaît plus. De toute façon, je n'arrive plus à retenir mon texte. Donc. En fait, j'adore la sensation d'avoir la pleine conscience de ce qu'il faut faire derrière une caméra et non pas de devoir plonger dans un état presque second pour jouer. Mais vous savez, je joue dans le film. On voit mon bras, mon ombre et vous pouvez même entendre ma voix de temps en temps, sortir de n'importe où. Enfin bon, oui, mon plaisir désormais, c'est de diriger. J'aime être de l'autre côté de la caméra.
Alors, son prochain film de réalisateur est déjà en chantier. Ça va faire beaucoup parler sans doute en 2017. Ça s'appelle La Résurrection. C'est une sorte de suite à La Passion du Christ. Un dernier mot, j'ai demandé à Mel Gibson s'il avait jeté un œil au nouveau Mad Max, celui de George Miller, qui est sorti l'an dernier, mais aussi à une série qui est actuellement diffusée sur la télé américaine, tirée de l'univers de L'Arme Fatale.
J'ai vu le nouveau Mad Max et ça m'a plu. Visuellement, c'est spectaculaire, quel sens du montage. Mais George est une sorte de scientifique qui utilise ses acteurs comme des rats de laboratoire avant de les envoyer sous le feu. Mais c'est ce qui marche. En revanche, je n'ai pas vu la série L'Arme Fatale. Je leur souhaite du bon temps.
Voilà, du bon temps, mais aussi de la réflexion. C'est ce que Mel Gibson vous propose avec Tu ne tueras point, son nouveau film de metteur en scène, avec aussi Andrew Garfield et Vince Vaughn. Ça sort donc avec RTL le 9 novembre prochain.
Et nous n'allons pas manquer de vous faire gagner des places pour aller découvrir au cinéma ce film. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Alors, Tu ne tueras point, est-ce le 5e ou le 10e film réalisé par Mel Gibson?
Votre réponse au 32-10. Et nous passons bien entendu à nos audiences du week-end avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et nos camarades de Médiamétrie. Elle me regarde avec un petit œil qui frise.
TF1 connaît certes des difficultés de renouvellement de format, mais elle ne peut que se réjouir de ses vieux concepts, puisque Koh-Lanta séduit quasiment 6 millions de fidèles vendredi, 60% des 4-14 ans toujours, devant non pas les Hommes de l'Ombre sur la 2, mais NCIS sur M6. Samedi, même bonne fortune donc pour la 1, qui ne fait aucun faux pas en fédérant 4 600 000 fanas devant Danse avec les Stars, dont 42% des 4-10 ans, le deuxième n'étant toujours pas France 2, mais France 3 avec le polar Meurtres à Étretat. C'était pourtant une rediffusion. Ben, quant à hier, ça y est, France 2 est en tête avec L'Amour, c'est mieux à 2, 3 400 000 téléspectateurs. C'est 58 000 de plus que le film d'animation Rio sur TF1 et 100 000 de plus environ que Murdoch sur la 3 qui tient bien tête aux deux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, puisqu'on va vous retrouver dans quelques instants pour notre soirée télé. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré la révélation de la rentrée littéraire. Il s'appelle Gaël Fay. Il a 34 ans. Il publie chez Grasset son premier roman, Petit Pays, en tête des ventes depuis plusieurs semaines et finaliste du prix Goncourt qui sera décerné jeudi prochain.
Un succès remarquable et pourtant à considérer le sujet de Petit Pays, ça n'était pas gagné. Il y est question de la guerre civile au Burundi et du génocide dans l'état voisin du Rwanda en 1994. Des événements terribles vécus et racontés par un enfant, Gabi, le double de l'auteur. Comme son personnage, Gaël Fay a grandi à Bujumbura, la capitale burundaise, entre un père français et une mère rwandaise. Et elle est sans doute là la clé de la réussite de Petit Pays, à en croire les réactions des lecteurs nombreux rencontrés par Gaël Fay depuis 2 mois.
Ce qu'on me dit, c'est qu'on arrive à entrer dans cette histoire de la région des Grands Lacs d'Afrique, Burundi, Rwanda, pour une fois de se sentir familier avec les personnages. Le fait que ce soit écrit à hauteur d'enfant permet aussi de rentrer plus facilement dans cette histoire, parce que ce regard d'enfant atténue la violence d'une certaine manière par le ton. Et j'en suis intimement persuadé qu'on a tous une humanité en commun, que peu importe sous quelle attitude l'on vit, on n'est pas des autres, on est en partage.
Oui, et c'est le miracle de ce livre Petit Pays, sorte de petit Nicolas égaré au pays du génocide. Gaël Fay évoque des événements terribles et lointains, le monde absurde et violent des adultes, mais il raconte aussi les jeux, les parfums, les sons, les saveurs d'une enfance universelle finalement, bien qu'aux couleurs de l'Afrique, ce paradis perdu pour chacun d'entre nous. Gaël Fay le restitue avec une infinie délicatesse.
J'étais dans un petit local à Alfortville, c'était l'hiver, il faisait gris dehors et moi j'avais envie de retrouver mon enfance d'il y a 20 ans et donc en écrivant c'était une manière de m'envelopper comme ça d'un édredon de souvenirs, de chaleur. Il n'y a pas de technique ou d'artifice, hein. J'avais envie d'écrire pour me sentir bien, pour retrouver des sensations oubliées et donc c'est ce que j'ai fait avec cette histoire et donc je suis content que ce que moi j'ai ressenti à l'écriture, d'autres peuvent le ressentir à la lecture.
Alors, on a évidemment envie d'en savoir un peu plus hein, sur la révélation Gaël Fay, Bernard.
Alors, réfugié en France à l'âge de 13 ans, après de brillantes études, il part travailler dans la finance à la City de Londres, mais le passionné de mots s'y ennuie très vite. Et Gaël Fay plaque tout, il devient chanteur de rap.
Qui français qui flâne, lisait qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays.
Gaël Fay, voilà, Gaël Fay, le rappeur avant de devenir romancier. Et aujourd'hui, il est reparti vivre au Rwanda avec sa compagne.
Oui, je trouve que c'est un peuple qui mériterait d'être encore plus connu. Cette capacité à se reconstruire, à cohabiter malgré tout entre anciennes victimes, anciens bourreaux. Les ethnies ont été abolies. Je pense que c'est un cas unique dans l'histoire contemporaine où sur un petit territoire où il y a eu... 1 million de gens tués en si peu de temps avec une idéologie génocidaire très forte. En si peu de temps, en 22 ans, on a réussi à remettre en place une société qui vit, qui a énormément de défis, mais qui en tout cas croit en l'avenir.
Alors, à propos d'avenir, est-ce que Gaël Fay, hein, l'un des 4 finalistes du Goncourt, on le rappelle, croit en ses chances jeudi?
Bah oui, jeudi, sur le coup d'un peu avant 13h, chez Drouan, nous aurons le verdict du Goncourt. Eh bien, vous allez l'entendre, le romancier débutant garde la tête froide.
c'est plutôt l'entourage qui se prend au jeu, la
qui
famille,
y croit encore
les
plus
amis,
que vous.
Exactement. Moi, j'essaye vraiment de mettre de la distance avec ça, parce que je crois que d'y attacher de l'importance, ça peut être pervers, surtout dans mon cas. J'aimerais pas ressentir de la déception, par exemple, alors que tout ce qui se passe autour de mon livre est absolument fabuleux. Enfin, ce serait de l'ordre de l'enfant gâté d'être déçu, de pas être lauréat, ou ma vie ne va pas s'arrêter si je ne l'ai pas. Voilà.
Oui, puis ouais. La belle histoire, elle est déjà là.
Elle est déjà
avec
là.
Avec l'accueil du public depuis trois mois.
Tout à fait.
Solide, hein, le garçon. Oui, bien, oui, il a l'air bien structuré.
Mais c'est touchant ce qu'il dit en plus.
Oui, alors.
Il ne va pas être déçu, en fait.
Et donc, il s'agit bel et bien de la révélation de la rentrée 2016. Gaël Faye qui publie Petit Pays chez Grasset, entretien complet à retrouver sur rtl.fr. Puis une petite anecdote personnelle.
Ce matin dans le métro.
Ah oui, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière de journaliste littéraire. Ma voisine de métro était en train de lire Petit Pays, donc le livre dont je viens de vous parler, le matin même.
Ben voilà.
Comme quoi ça marche.
Hein. Bon, comment ça, il ne l'a même pas invité? Vous ne l'avez pas invité à venir, votre voisine?
Ben je pense qu'elle partait travailler, voilà.
Ah oui, vous pensez.
Enfin, c'est fort
incroyable. Oui, Bernard Lehu, il est fort. Hein.
Et donc, Gaël Faye, un dernier mot, donc, est en tête des ventes depuis la rentrée, juste derrière Amélie Nothomb, pour donner une idée du phénomène.
C'est d'ores et déjà un succès. Dans quelques instants, nous allons vous parler de Tini, vous ne la connaissez pas encore. Vous savez, elle s'appelait auparavant Violetta, et c'était une star, alors là, mondiale.
Ça l'est toujours.
RTL bouge.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Musique maintenant avec un retour, et c'est une information RTL. Tini, alias autrefois Violetta, star de la série Disney du même nom, revient en France pour une tournée avec RTL, Laurent Marsic. Vous avez joint Martina Stoessel, dites-nous tout.
Eh bien, on savait que Martina, qui chante désormais effectivement sous son diminutif Tini, devait entamer en 2017 une grande tournée mondiale baptisée Got Me Started, qu'on va traduire par Mes Débuts, en passant par l'Europe avec 60 dates, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la Pologne et la Hongrie. Mais on ne savait pas si elle allait, oui ou non, poser ses valises en France. Eh bien, ce matin, nous sommes heureux de vous annoncer que Tini passera bien par la France du 25 au 30 avril. Attention, crayon, papier, elle débutera sa tournée de 5 dates par le Zénith de Lille le 25 avril, Strasbourg le 26 avril, Montpellier le 28 avril, Lyon le 29 avril et Paris le 30 avril. J'ai donc appelé Martina. Elle ne cache pas qu'elle a un peu la pétoche quand même, parce qu'elle sera seule en scène avec ses chansons à elle. Il n'y aura plus toute la bande de copains de la série Violetta.
Je suis très heureuse, très excitée évidemment par tout ça, avec un mélange de nervosité et d'attente. Je ressens un mélange d'émotions qui vont évoluer. Bon, je vais voir comment ça va se passer. Mais ce que je ressens là maintenant, en ce moment, dans ce nouveau défi, c'est du pur bonheur, de l'apprentissage aussi. Tout ça me donne envie.
Depuis la fin de la série, la star de Disney a donc sorti un album baptisé tout simplement Tini. Ce sont ses créations qu'elle chantera dans cette tournée, mais pas seulement.
En fait, il y aura beaucoup de Tini, parce que le spectacle porte mon nom. Je vais chanter toutes les chansons du disque et je vais probablement inclure des reprises. Mais évidemment, il y aura un moment où nous, le public et moi, on se souviendra de Violetta et nous chanterons ces chansons qui ont marqué ma vie et qui ont également marqué la vie de beaucoup d'enfants.
Tini en concert avec RTL. On rappelle les dates: 25-30 avril 2017, Lille le 25, Strasbourg le 26, Montpellier le 28, Lyon le 29 avril et Paris le 30 avril. La billetterie pour ces 5 dates ouvre le 4 novembre à 10h.
Et bien entendu, tous les renseignements sur cette tournée française sont à retrouver sur rtl.fr. C'est une exclusivité RTL. Au revoir Tini, à bientôt. Bonjour Isabelle.
Bonjour tout le monde.
Allez, on vient de voir, on a vu tout à l'heure les audiences de Danse avec les Stars, présentées par Laurent Ournac, que l'on retrouve ce soir sur TF1, mais dans Camping Paradis.
Absolument. Et si, d'après les études, le public regrette la bonhomie qu'il avait avec 45 kilos de plus, on sait qu'il a eu un régime drastique, il continue à regarder en masse ce public, cette série très attachante, où ce soir, Halloween oblige, on plante non seulement la tente, mais aussi le décor d'une murder party, avec d'ailleurs aussi quelques temps morts, mais c'est sympathique.
J'attendais un son. Non, mais dans ma tête. Non, je suis pas sous le choc. J'étais en train de me dire, c'est vrai qu'il a beaucoup minci. Excusez-moi. Alors, une nouveauté sur France 3, le documentaire d'investigation Crime et châtiment.
Oui, alors moi, je trouve personnellement dommage que l'on ait repris le titre du roman de Dostoïevski. C'est un peu paresseux, mais à ce détail près, elle est passionnante. Cette émission marquant le retour de Christophe Ondelat à 20h55, mais sur France 3, il y fait ce qu'il sait faire. Son ancien producteur doit un peu grincer les dents. Le récit d'une affaire judiciaire. Sauf que dans Faites entrer l'accusé, l'affaire était classée, alors que là, il a 2 mois pour lire les 12 000 pages d'une affaire criminelle bientôt rejugée. Écoutons son préambule, parce que tout y est dit.
Dans un mois, Jamel Lelmi sera rejugé devant la cour d'assises d'appel de Paris. Son deuxième procès. La première fois, il avait pris 30 ans pour avoir assassiné sa femme Kathleen et tenté d'assassiner 3 ans plus tard sa fiancée. Il aurait fait ça pour de l'argent. Des millions et des millions d'euros versés par les assurances d'essai qu'il aurait fait souscrire à ses amoureux. Comme il se dit innocent, il a fait appel. Tout recommence à zéro. J'ai un mois pour entrer dans la peau de ce tueur présumé qu'on me dit séducteur. Un mois d'enquête, plus un mois de procès. Dans 2 mois, on saura.
C'est exactement ça. N'importe quoi, Christophe Ondelat, je l'écoute.
Ah ben oui, ça se suit comme un polar avec un Christophe Ondelat qui lit, se déplace, se met en lumière pour découvrir les zones d'ombre, sort parfois de son rôle pour rentrer dans l'enquête. Bref, comme un couteau suisse, il a plusieurs fonctions et il faut bien reconnaître que c'est réussi.
Mmh. On conclut par un bilan ?
Oui, de ça. Ça m'éclate, et oui, on fait l'âne, mais c'est pour la seconde partie du bilan de L'amour dans le pré. On disait que cette 11e saison était celle de trop, mais non. L'émission a été quasiment tout le temps en tête des audiences durant ces 17 soirées, constamment sur les ménagères, et 7 agriculteurs sont déjà venus en couple au bilan, couples au bilan, notamment Monique, la spécialiste des bêtes à cornes, elle fait dans l'héliciculture, qui, elle vit un grand amour avec Jean-Marc. Monique, elle a un très fort caractère.
J'aime bien diriger aussi, hein.
Juste ce qu'il faut. Jean-Marc, je le dirige pas. À la maison, il fait. Je ne suis pas là en train de le diriger. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc ?
Non, ça va. Bon, des fois, tu me commandes, bien sûr.
Ah bon ?
Ah bon, oui. De solides amitiés se nouent également. Par exemple, entre la Vosgienne et l'Alsacien, ou l'inverse, qui se chamaillent, mais qu'est-ce que c'est bon.
Vous êtes à combien de kilomètres l'un de l'autre, en fait ?
25.
Il y a une différence entre les Alsaciens et les Vosgiens ?
Ah bah oui.
Parce que chez nous, les corbeaux, quand ils passent l'Alsace, ils se mettent sur le dos pour avoir...
Pourquoi faire ?
Pour voir ce qui se passe en Alsace.
Pourquoi t'es méchante ?
Non, en fait, c'est l'inverse. Ah. C'est les Alsaciens qui disent que les corbeaux, quand ils passent la montagne, après, ils volent sur le dos pour pas voir la misère des Vosges.
Des fois, on se dit que ces deux-là, ils devraient finir ensemble, si j'ose dire. On verra la suite. On rappelle le bilan, 68 couples, 18 mariages, 40 enfants à la fin de la saison 10. Il faudra donc rajouter tous ceux de la saison 11. Voilà, c'est à la fin. Je rappelle que c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses et de la foire. Et on signale pour finir une curiosité sur Paris Première, conseil d'indiscipline, un divertissement dans lequel Jean-Louis Debré incarne... Ben écoutez...
Jean-Louis ?
Oui, c'est moi. Je viens d'être nommé président du conseil d'indiscipline de Paris Première. Les choses vont changer. À partir de maintenant, le premier comédien, écrivain, chanteur qui ne fait pas preuve d'indiscipline, je fais tout pour qu'il prenne la porte.
Mais ils sont dingues. Voilà. Ils étaient quand même président du Conseil constitutionnel.
Il n'y a pas cette musique obsédante dans l'émission. Je ne sais pas pourquoi on nous en a gratifié là. Alors c'est très original et il y a parmi les chroniqueurs un certain Tanguy Pastureau qui est très drôle comme d'habitude ici.
Eh ben, qu'on retrouve tous les soirs avec Bernard Poiret.
Absolument. Et le week-end.
Oui, dans un instant, vous saurez si vous avez gagné des places pour aller voir le film de notre ami
Mel Gibson.
Eh ben voilà. Vous suivez, vous, c'est très bien.
J'essaye, je m'accroche.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous, on aime le cinéma, on veut vous emmener au cinéma et c'est pour ça qu'on vous distribue des places. Oui. La question qui vous était posée pour découvrir Tu ne tueras point, le dernier film de Mel Gibson, était, s'agit-il de son 5e ou de son 10e film ?
Alors,
donc,
il y avait
réalisateur,
eu,
bien entendu.
Il y avait eu L'Homme sans visage, oui. La Passion du Christ, Braveheart et Apocalypto, c'est donc le 5e.
Eh ben voilà, réponse au 32-10, vous les avez données, vous avez gagné. Merci à toute l'équipe, on se retrouve demain avec grand plaisir.
Vous écoutez RTL.